Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La fourmi dans la coquille, le podcast pour sortir du dédale. Incandescence, luminescence et autres phénomènes lumineux, aujourd'hui nous voyageons aux sources de la lumière. La fourmi dans la coquille, saison 2, épisode 3, fabriquer la lumière. Aujourd'hui, je vous invite à un petit tour d'horizon de tous ces phénomènes qui émettent de la lumière et nous éclairent et font naître la couleur. Depuis le soleil au feu follet au fond des forêts humides, nous verrons que les manières de fabriquer la lumière sont variées et nous parlerons aussi des feux de Saint-Elme ou des aurores polaires. Nous casserons quelques idées reçues sur la flamme des bougies et parlerons de la bioluminescence. Résumé des épisodes précédents. La lumière est un rayonnement profondément lié à l'électricité et au magnétisme. En fait, la lumière visible n'est qu'une petite partie du rayonnement électromagnétique qui s'étale depuis les ondes radio aux rayons gamma en passant par les infrarouges, la lumière visible par l'être humain, les ultraviolets et les rayons X. En tant que rayonnement, elle se propage en ligne droite, elle peut être réfléchie ou déviée de diverses manières, elle est composée d'une multitude de photons qui sont à la fois des ondes et des particules se propageant dans l'espace-temps. Ces photons, en tant qu'ondes, ils ont une longueur d'onde, ou on peut dire une fréquence, ce qui revient au même, qui définit une couleur. Si cette longueur d'onde fait partie du spectre que l'être humain peut percevoir, alors c'est une couleur. En tant que particules, ils possèdent une quantité précise d'énergie qui est directement proportionnelle ou équivalente à leur longueur d'onde. La couleur de la lumière elle-même dépend donc de la proportion de photons de différentes longueurs d'onde qui la composent. La lumière est un mélange de photons de plein de longueurs d'onde différentes et son intensité dépend du nombre total de photons qui composent la lumière. Lorsque la lumière rencontre de la matière, elle interagit avec les électrons qui la composent et sa composition peut alors varier. À chacune des interactions, la couleur et l'intensité de la lumière changent. Et les sources de lumière sont donc des usines à photons qui les produisent tout en consommant de l'énergie. Elles transforment l'énergie en photons. Toutes les sources, que ce soit les étoiles, la combustion, la bioluminescence, les diodes électroluminescentes, les ampoules, les lasers, toutes les sources de lumière produisent des photons de longueur d'onde variée et elles émettent donc un spectre, un mélange d'ondes, plus ou moins large. Les lasers, c'est ce qui va émettre le spectre le plus réduit, c'est une lumière quasiment monochromatique, c'est-à-dire composée d'une seule longueur d'onde, d'une couleur qu'on va dire pure, une des couleurs qu'on retrouve dans l'arc-en-ciel. Le soleil, lui, émet le spectre le plus large, c'est une lumière qui contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et qu'on voit du coup blanche. Et il existe presque autant de méthodes de fabrication de photons qu'il existe de types de sources de lumière. Mais on peut les classer en deux grandes catégories. D'un côté, les plus répandues, ou en tout cas celles à l'origine du plus grand nombre de photons sur Terre, sont les sources incandescentes, celles dont la lumière provient de la chaleur. L'incandescence, qui est l'émission de lumière suite à la chaleur, en réalité, elle fait de toute la matière une source de lumière, excepté peut-être la matière que l'on appelle noire ou matière sombre, dont on ne connaît l'existence que par son interaction gravitationnelle et son influence sur les trajectoires de la matière ordinaire. Enfin, c'est peut-être pas le sujet ici, on va parler uniquement de la matière classique, même si la matière noire représente en réalité 80% de la masse de l'univers, on va l'ignorer parce qu'on ne la voit pas et on n'interagit pas du tout avec elle, nous autres pauvres petits humains. Cela étant dit, moi-même je ne suis pas constitué de matière noire, je suis bien constitué de matière ordinaire, j'ai une certaine chaleur, ce qui fait de moi une lumière, et oui, je suis une lumière, vous êtes des lumières aussi. Mais cette radiation thermodynamique, issue de la chaleur, elle n'est pas visible pour les corps dont la température est inférieure à 500 degrés Celsius, ou 773 Kelvin, parce que dans ce cas, elle est infrarouge, elle est au-delà du rouge. Quand la température monte, donc au-delà de 500 degrés Celsius, cette lumière devient visible et finit par tendre vers le jaune, puis le blanc et le bleu au fur et à mesure que la température monte. Les sources de lumière incandescentes, celles qui émettent de la lumière grâce à leur chaleur, elles sont nombreuses. Il y a par exemple le feu, bien évidemment, les anciennes ampoules à incandescence, celles qui ont un filament qui chauffe, ou la lave, par exemple, qui est constituée de roches en fusion qui sont suffisamment chaudes pour émettre de la lumière un peu rouge, entre 500 et 900 degrés Celsius, voire même de la lumière orangée quand la lave atteint les 1000 degrés Celsius, et des fois jaune quand la lave atteint 1200 degrés Celsius, ce qui peut arriver en fonction de sa composition chimique. De la même manière, la couleur du métal chauffé indique sa température. Quand il est rouge et jaune, il est autour de 500 degrés, puis il peut devenir blanc, ce qui est la couleur du soleil, quand on atteint les 5500 degrés. Actuellement, ce sont des réactions de fusion nucléaire qui donnent sa chaleur au soleil et donc sa couleur. Ces réactions, elles fusionnent chaque seconde plusieurs centaines de millions de tonnes d'hydrogène. Et ces centaines de millions de tonnes d'hydrogène sont fusionnées pour être transformées en hélium. Et dans ce processus de fusion, il y a de l'ordre de 5 millions de tonnes par seconde. 5 millions de tonnes, c'est la masse de la pyramide de Gizeh. Et ces 5 millions de tonnes, c'est ce qui est désintégré. Donc chaque seconde par ce processus de fusion nucléaire dans le soleil et qui est transformé en chaleur puis rayonné dans l'espace en énergie lumineuse. Ça paraît énorme, mais ça laisse quand même 6 milliards d'années de réserve au soleil avant qu'il n'ait brûlé tout l'hydrogène de son cœur et que la fusion ne continue que dans la périphérie du soleil, ce qui va finir par faire dilater cette couronne externe jusqu'à ce que le soleil forme une géante rouge dont le diamètre dépassera l'orbite de Vénus et sera très proche de la Terre. Pas d'inquiétude, on a dit c'est dans 6 milliards d'années. Sachant que le Soleil existe depuis environ 4,5 milliards d'années, on a le temps de voir venir. À ce moment-là, il sera 2000 fois plus lumineux qu'aujourd'hui et la Terre sera complètement calcinée. Le Soleil y perdra un tiers de sa masse pendant un autre milliard d'années, puis son cœur finira par se contracter, il sera de plus en plus concentré sous la masse de l'hélium qui est produit, l'hélium étant plus lourd que l'hydrogène, le cœur du Soleil va se contracter, donc sa chaleur va augmenter jusqu'à atteindre 600 millions de Kelvin, c'est-à-dire 40 fois plus chaud que la température actuelle du cœur du Soleil. Et cette chaleur extrême permettra au Soleil de commencer à fusionner l'hélium lui-même. Ça le fera entrer dans une période assez brève et instable, où il fusionnera des éléments de plus en plus lourds, notamment du carbone et de l'oxygène, et encore plus lourds, avant que finalement tout ça ne s'arrête. Il restera alors plus que le cœur du Soleil, tout petit et très massif, qui formera d'abord une naine blanche. C'est une étoile dont la seule lumière provient de la chaleur qui lui reste, mais elle est inerte. Il n'y a plus de réactions qui produisent de l'énergie, elle est juste encore chaude, donc encore blanche, et ça va lui prendre quelques milliards d'années pour refroidir, pour s'éteindre et devenir une naine noire qui n'émettra plus aucune lumière, et là le Soleil sera définitivement mort. Mais les anciennes couches externes du Soleil, celles qui ont été éjectées, elles aussi très chaudes, pendant ce temps, elles auront formé une nébuleuse planétaire, et elles pourront former ces anciennes couches de nouvelles étoiles et de nouveaux systèmes planétaires qui profiteront du reste d'hydrogène et d'hélium et des éléments lourds qui ont d'abord été créés par le Soleil mourant. Autrement dit, quand vous regardez la lumière du soleil aujourd'hui, qui nous apporte notre énergie pour vivre, nous voyons aussi le produit de la fusion qui a lieu en ce moment même dans le soleil, et qui est le germe des futures générations d'étoiles et de planètes, et de nouvelles formes de vie probablement bien différentes de la nôtre. La plupart des sources de lumière incandescente en lumière visible peuvent être, comme le soleil, rapprochées du modèle idéal du corps noir dont on a parlé dans l'épisode précédent. Et ces lumières incandescentes, dont le spectre est issu de la chaleur, elles ont un avantage, entre guillemets, qui est d'émettre des photons dans tout le spectre visible, même si, en fonction de la chaleur, certaines longueurs d'onde sont plus ou moins dominantes, ce qui leur donne une teinte qui peut aller du rouge au bleu. Ce sont des lumières qui émettent dans tout le spectre visible de l'arc-en-ciel. Ça, ce n'est pas le cas de la deuxième catégorie de sources de lumière, qui est la luminescence. Les sources luminescentes, on les qualifie parfois de froides, justement en opposition aux sources incandescentes dont la lumière vient de la chaleur. La luminescence est en fait le résultat d'interactions entre des particules électriquement chargées, donc en général les électrons, qui effectuent ce qu'on appelle une transition électronique au sein des atomes. C'est-à-dire en fait qu'ils changent de niveau d'énergie pour passer à un niveau d'énergie plus bas, et ils émettent l'excédent d'énergie sous forme de photons. La longueur d'onde du photon qui est émis, elle est alors directement liée à l'énergie qui a été perdue par l'électron, et cette valeur, elle n'est pas arbitraire. C'est ce qu'on a appris avec la physique quantique au XXe siècle. L'électron n'a pas le choix de son énergie. Il est coincé sur des paliers précis. Il peut que sauter d'un palier à l'autre, mais il n'y a pas de demi-valeur. Autrement dit, il n'a pas le choix des fréquences, des longueurs d'onde, des photons qui sont émis. Les photons dépendent de ces paliers, et c'est ce qui fait que les sources luminescentes, en général, elles n'émettent des photons que dans des parties limitées, précises du spectre, au contraire des sources incandescentes. Elles ont donc une couleur bien définie, plus précise. Ça, c'est un effet qui est bien pratique pour nous autres humains dans certaines applications, mais en général, par exemple pour l'éclairage domestique, c'est plutôt un problème. Parce que nous autres êtres humains avons une vision qui s'est développée pour voir en détail de nombreuses couleurs avec une grande acuité visuelle, en particulier sous la lumière du soleil. Le soleil est une source incandescente qui émet dans tout le spectre visible, sans discontinuité importante, qui est plus ou moins centrée sur ce qu'on va appeler jaune, mais qui paraît parfaitement blanche. Toute surface qui est éclairée par ce spectre, par la lumière du soleil, prend une couleur qui lui est propre. En fait, ces surfaces absorbent une partie du spectre et ne réfléchissent qu'une autre plus petite partie, et c'est ce qui lui donne la couleur. Dans le cas d'un éclairage à partir d'une source luminescente, qui n'émet pas dans tout le spectre. Dans ce cas, certaines surfaces ne vont pas recevoir suffisamment de photons de la bonne longueur d'onde à nous renvoyer, c'est-à-dire que ce qui n'est pas absorbé, ben en fait, il n'est pas renvoyé parce qu'il n'arrive même pas à la surface. Et dans ce cas, la surface, bien que colorée à la lumière de soleil, sous une lumière luminescente, elle paraît grise, ou foncée en tout cas, désaturée. Il est inutile d'éclairer une cerise mûre avec une lumière bleue. Elle restera gris foncé ou noir, et elle ne sera ni rouge ni appétissante, parce que dans la lumière bleue, il n'y a pas le rouge nécessaire pour donner sa couleur à la cerise. C'est évident quand la lumière est colorée, quand elle est bleue comme ici, mais c'est vrai aussi avec une lumière qui peut paraître blanche. En effet, ce qui est important de comprendre ici, c'est que c'est pas parce que la lumière, on la voit blanche, qu'elle contient tout le spectre visible comme celle du soleil. On le verra par la suite. On verra par la suite pour quelles raisons une lumière qui est composée de seulement 2 ou 3 longueurs d'onde, 2 ou 3 couleurs, comme par exemple bleu et orange, ou bien rouge, vert et bleu, on verra pourquoi une telle lumière peut nous apparaître blanche. Mais bon, en tout cas, croyez-moi, pour l'instant, c'est bien le cas, ça arrive, une lumière blanche ne contient pas nécessairement toutes les couleurs du spectre. Et c'est pour cette raison, par exemple, que la lumière des tubes luminescents, ce qu'on appelle les néons, tout simplement, ou les premières ampoules à économie d'énergie, celles qu'on appelait fluo compactes, la lumière qui est émise par ces tubes, elle paraît blafarde, elle paraît terne, alors qu'elle est blanche. En fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des sources qui ne sont pas incandescentes, ce sont des sources luminescentes qui émettent un spectre de lumière plus réduit que les sources chaudes. Alors, les progrès technologiques ont bien sûr permis de limiter ce problème, mais on retrouve ce problème aussi avec les diodes électroluminescentes, les LED, des ampoules à économie actuelles qui sont plus récentes, parce que les diodes sont aussi des sources luminescentes, et le problème fondamental de ces diodes, c'est qu'elles émettent un spectre vraiment très réduit dans une couleur bien précise. On a des diodes rouges, on a des diodes vertes qui sont connues depuis relativement longtemps, Les diodes bleues sont apparues plus récemment, mais aucune diode ne permet d'émettre de la lumière réellement blanche avec toute une gamme de longueurs d'onde dans les rayons lumineux. Donc en fait, les ampoules à diodes actuelles, elles renferment plusieurs types de diodes dont les couleurs se combinent pour former du blanc. Le problème, c'est que des ampoules à diodes de mauvaise qualité peuvent très bien n'émettre que juste du rouge, du vert et du bleu, mais pas de orange, ni de jaune, ni d'autres couleurs de la gamme. Et dans ce cas, même sous une lumière blanche, une mandarine a l'air toute terne parce qu'il n'y a pas de orange dans les rayons. Il y a du rouge et du vert, mais pas de orange. Ce sera le même problème pour vos chaussettes mauves et vos chaussures jaunes moutarde. Tout comme les goûts et les couleurs, la lumière, même quand elle est blanche, peut être de qualité variable. Quand les photons sont émis par un courant électrique, on parle d'électroluminescence. C'est ce qu'il y a dans les diodes électroluminescentes, justement. Les marins et les aviateurs peuvent aussi observer parfois un autre phénomène en lien avec l'électricité, notamment par temps orageux. On peut apercevoir des lueurs violacées au sommet des mâts ou aux extrémités des ailes des avions. C'est ce qu'on appelle le feu de Saint-Elme. Pline l'Ancien, un naturaliste de l'Antiquité romaine, rapporte que dans l'Antiquité, on interprétait ces feux de Saint-Elme comme un augure menaçant si on n'en voyait qu'un, alors que si on en voyait deux, c'était plutôt un heureux présage. Le feu de Saint-Elme a été nommé comme ça au Moyen-Âge, en référence à Érasme de Formia, un martyr chrétien du 3e siècle, qui aurait continué à prêcher après avoir été frappé par la foudre. Il est devenu ensuite le saint patron des marins sous le nom de Saint-Elme. Dans ce contexte, le feu de Saint-Elme est vu comme un signe de protection des navires et des marins. Il apparaît en fait en présence d'un champ électrique fort à proximité d'une matière conductrice. Les pointes des conducteurs formés par les mâts ou les parties pointues d'un avion amplifient les champs électriques qu'il y a déjà dans l'atmosphère orageuse et ils finissent par ioniser l'air, c'est-à-dire arracher des électrons aux atomes, et ça, ça crée un halo lumineux. C'est le feu de Saint-Elme. Ce phénomène, il est aussi mentionné comme pouvant apparaître sur les piolets et les équipements métalliques des alpinistes, par exemple. C'est ce que mentionne Frison Roche dans son roman Premier de Cordée en 1940. Et l'idée est reprise en 1960 par Hergé dans Tintin au Tibet. Dans les différents types de luminescence, il arrive aussi que les photons soient émis à la suite de la collision entre deux électrons. Ça, c'est ce qu'on appelle la cathodoluminescence, et ça a été très utilisé dans les tubes cathodiques, qu'on appelait à juste titre des canons à électrons, inventés dès le 19e siècle, et qui sont en fait le composant de base des grosses anciennes télévisions et des premiers écrans d'ordinateur. Dans ces tubes, les électrons qui sont émis par un canon à électrons sont dirigés grâce à un champ magnétique, lui-même contrôlé par le signal électrique qui porte l'information visuelle, et donc les électrons qui sont projetés et déviés par le champ magnétique viennent frapper la surface de l'écran à un point précis, ce qui forme un pixel de l'image en émettant des photons par cathodoluminescence. Parfois, l'énergie libérée par les électrons sous forme de photons, elle peut aussi provenir d'autres photons qui ont été absorbés auparavant. Dans ce cas, on parle de photoluminescence. Il y en a deux types, vous connaissez certainement les noms. La fluorescence, qui est plus rapide, quand le photon est réémis tout de suite après l'absorption d'un autre photon, c'est-à-dire qu'un photon est absorbé par l'atome, un nouveau est émis tout de suite, ça crée de la fluorescence. Et la phosphorescence, c'est un phénomène semblable, mais qui peut durer là plusieurs secondes. Il peut s'écouler plusieurs secondes entre l'absorption du photon et la réémission d'un nouveau photon par les atomes. La fluorescence et la phosphorescence sont en fait un peu plus courantes qu'elles n'y paraissent. C'est par exemple le phénomène qui est révélé par ce qu'on appelle la lumière noire, qu'on retrouve dans des soirées de mariage ou en boîte de nuit par exemple. Et cette lumière, en réalité, elle n'est pas noire, c'est une lumière dont le spectre se situe à la limite des longueurs d'onde visibles, autour du violet et de l'ultraviolet, et elles paraissent donc très peu lumineuses, mais en fait c'est bien qu'on ne voit pas les couleurs qui sont émises. Et les photons de ces longueurs d'onde en particulier sont justement absorbés par les textiles synthétiques blancs et restitués par fluorescence dans le spectre visible, ce qui leur donne cet éclat lumineux dans les pièces éclairées uniquement par cette lumière noire. En fait, la différence entre un simple rebond de lumière et la fluorescence, c'est que justement, les photons, comme ils sont absorbés puis réémis, ils peuvent être réémis dans une longueur d'onde différente de celle du photon qui est arrivé, au contraire d'une réflexion où c'est simplement le photon qui rebondit et donc ne change pas de couleur. Un autre exemple, on ajoute dans les antigènes de la fluorescéine. C'est une molécule fluorescente et ça permet de diagnostiquer plus rapidement les intoxications provoquées par l'ingestion de ces antigènes, qui peut être accidentelle ou bien des tentatives de suicide malheureusement. Et dans ce cas, la fluorescéine, qui est donc ajoutée dans ces liquides, elle se retrouve dans les urines et on la révèle très facilement justement en éclairant les urines avec cette fameuse lumière noire. Et la fluorescence va rendre l'urine lumineuse, ce qui sera un marqueur de l'ingestion de ce composé. On retrouve aussi de la photoluminescence dans le monde vivant. C'est un phénomène qui est bien documenté chez pas mal de plantes, chez des invertébrés, des organismes marins, qu'il ne faut pas confondre avec la bioluminescence dont on parlera un tout petit peu après. Et on retrouve de la photoluminescence aussi chez certains mammifères étonnamment, en particulier chez certaines espèces de chauves-souris. Quand on les éclaire de lumière ultraviolette, les chauves-souris prennent alors une teinte verte fluorescente. On n'explique pas encore si ce phénomène il est un fruit utile de l'évolution des espèces, par exemple pour échapper à des prédateurs, pour communiquer ou pour simplement améliorer la vision, ou si c'est juste un effet secondaire ou du hasard. En tout cas, cette photoluminescence semble n'être présente que chez les espèces nocturnes ou crépusculaires. Les types de luminescence sont nombreux et il est aussi possible que ce soit des réactions chimiques qui amènent les électrons à émettre des photons, c'est ce qu'on appelle dans ce cas la chimiluminescence. On la retrouve dans les bâtons lumineux sur certaines fêtes foraines ou concerts par exemple. Et quand cette chimiluminescence, elle a lieu au sein d'un organisme vivant, on parle alors de bioluminescence. J'oublierai jamais ce soir, ce crépuscule assez magique il y a quelques années où je déambulais sur les rives du Léman et de nombreux lampyres, c'est l'autre nom du ver luisant, parsemaient les herbes de petits points lumineux d'un vert tirant sur le jaune que je qualifierais bien de radioactif, ce qui serait pas tout à fait faux dans le sens où ils m'envoyaient effectivement des radiations. Des photons directement dans les yeux. Chez cette espèce de luciole, chez le lampyre, seule la femelle est luminescente. Et par contre, elle n'a pas d'ailes. La lumière qu'elle émet, c'est un phare pour attirer les mâles qui, eux, volent, mais ne brillent pas. On peut pas tout avoir. L'espèce était autrefois très courante, mais sa population est en déclin. Ça devient de plus en plus difficile de voir des vers luisants, des lampyres. Au-delà des ravages des insecticides et des granulés anti-limaces dans les jardins qui déciment les limaces qui sont l'aliment de base des vers luisants, on pense aussi que les mâles sont gênés par les lumières artificielles, ils sont déroutés et ont plus de mal à trouver les femelles. Il faudrait donc éteindre toutes ces lampes artificielles la nuit pour pouvoir de nouveau admirer le spectacle lumineux des lampyres, qui se feront en plus en retour une joie de réguler la population des limaces sans qu'on ait besoin d'y mettre des granulés, des pesticides pour tuer tout le monde. Dans l'écosystème de nos jardins, tout est lié. La bioluminescence, en fait, elle n'est pas très répandue dans le milieu terrestre. Au-delà des lampyres, des vers luisants, on la retrouve chez quelques insectes, chez quelques arachnides et aussi des champignons. Et figurez-vous qu'on la retrouve aussi chez l'humain. Alors on savait qu'on était des lumières, vous et moi, parce que nous sommes des corps chauds. Donc par incandescence, nous émettons un petit peu de lumière infrarouge, mais c'est de la lumière quand même. Et bien en fait, on peut y ajouter environ entre 170 et 600 photons par seconde et par centimètre carré de peau qui sont émis en bioluminescence, comme l'abdomen des vers luisants. Mais à ce niveau qui est infime, on peut pas le voir, ce n'est pas visible, on peut juste le détecter avec des dispositifs artificiels extrêmement sensibles. Dans l'eau, par contre, la bioluminescence, c'est beaucoup plus répandu que sur Terre. 76% des organismes marins sont bioluminescents, jusqu'à 4000 mètres de profondeur, et 40% des espèces benthiques, celles qui vivent tout au fond des océans, sont aussi bioluminescentes. La plupart du temps, cette bioluminescence, elle est bleue ou verte, qui sont les couleurs les moins absorbées par l'eau, mais il y a aussi de rares espèces qui émettent dans le rouge, voire dans l'infrarouge. La bioluminescence, en fait, a été acquise plusieurs dizaines de fois indépendamment dans l'évolution des espèces. Elle est même relativement aisée à produire artificiellement et c'est pas mal utilisé comme phénomène dans les recherches en biologie où on fait quelques modifications génétiques sur l'organisme qu'on veut étudier pour rendre certaines cellules bioluminescentes, ce qui permet de les suivre dans le corps, tout simplement en détectant la lumière qu'elles émettent. Cette bioluminescence, on l'a vu, elle peut servir à attirer des partenaires sexuels, comme chez le lampyre, mais ça peut aussi servir à attirer des proies, comme certains poissons des abysses, tels que la baudroie abyssale de Johnson, dont vous avez sans doute déjà vu une image. C'est ce poisson très très laid, qui a une petite lanterne devant le visage qui pendouille au-dessus de la tête, qui servirait à attirer ses proies. Encore que, en réalité, la baudroie, elle n'est pas vraiment elle-même luminescente, parce que la lumière qu'elle émet, en fait, elle est émise par des bactéries qui vivent en symbiose avec elle. La luminescence, elle peut aussi, au contraire, servir à repousser les prédateurs. Ça, certains calmars des profondeurs le font en expulsant un nuage luminescent, de la même manière que leurs cousins qui vivent plus près de la surface le font avec un nuage d'encre pour dérouter une attaque. Et de manière assez inattendue, la luminescence, elle peut même servir à se camoufler. Oui, parce que être lumineux dans les eaux moyennement profondes, ça permet de pas se détacher en ombre chinoise sous la lumière de la surface quand un prédateur arrive par en dessous de nous. La chimiluminescence, dont la bioluminescence est une des formes, c'est aussi à l'origine du cœur bleu des flammes ou des réactions chimiques provoquées par la combustion ont lieu. Parlons un peu des flammes justement, parce que contrairement à une idée très répandue, le cœur bleu de la flamme d'une bougie, c'est pas la zone la plus chaude. En fait, la partie la plus chaude se situe au-dessus de la pointe jaune de la flamme. Si on décortique un peu ce qui se passe dans une flamme et qu'on regarde les couleurs, on va comprendre ça. Au cœur de la flamme, on devine une zone qui n'est pas lumineuse. C'est là que la cire s'évapore. La température est environ, à cet endroit-là, de 600 degrés Celsius. Il y a cette fameuse zone bleue qu'on croit à tort être la zone la plus chaude. Elle est bleue parce que là ont lieu des réactions chimiques qui lui donnent cette couleur et ça se passe aux alentours de 800 degrés Celsius. On trouve d'ailleurs le même phénomène quand on brûle du gaz naturel dans une cuisinière ou un briquet où la flamme est bien bleue, voire légèrement verdâtre. Cette couleur n'est pas due à la chaleur mais bien aux réactions chimiques du gaz en combustion. Vient ensuite, au-delà de la zone bleue, une très fine bande plus sombre, à une température encore un peu plus élevée, à 1000 degrés. C'est l'endroit où l'oxygène manque pour bien brûler, et donc se forment des suies qui réduisent la luminosité dans cette zone. C'est ces suies qui iront ensuite monter, salir le plafond au-dessus de la bougie, et faire de vilaines traces noires. Ensuite, au-delà de cette fine zone sombre, on trouve la plus grande zone lumineuse, jaune, voire blanche dans son cœur quand la température dépasse 1300 degrés Celsius. Cette zone prend des teintes orangées autour, là où la température est plus faible, de l'ordre de 800 degrés, et c'est là, et seulement là, qu'on a une authentique lumière incandescente dont la couleur dépend uniquement de la température, c'est-à-dire un corps noir presque parfait. Et enfin, autour de la flamme, il y a un voile moins lumineux, voire pas lumineux, qui est l'endroit où la cire se consume entièrement et se transforme en dioxyde de carbone et en eau. L'idée fausse selon laquelle le cœur bleu est le plus chaud provient de l'erreur de croire que toute la flamme est incandescence et de l'interpréter comme un corps noir dont la couleur dépend de la température, alors qu'en fait le cœur n'est pas incandescent mais luminescent, c'est le résultat d'une réaction chimique et non pas de la chaleur. D'ailleurs, si le cœur était incandescent, le bleu qu'il atteint signifierait que la température serait à peu près deux fois celle de la surface du soleil. Je vous garantis que c'est pas le cas, les petites bougies et la cire n'atteignent pas deux fois la température. température de la surface du Soleil. C'est une erreur. Puisqu'on parle de flamme, je vous propose de partir chercher une flamme bien particulière. On va attendre la tombée de la nuit pour la repérer plus facilement et se mettre dans une ambiance propice aux histoires étranges et inquiétantes. Nous irons chercher cette flamme dans un ancien cimetière ou un marécage. Peut-être verrons-nous alors apparaître dans l'air, près du sol, une petite lueur bleutée ou jaune, voire parfois rougeâtre, qui prendra la forme d'une flamèche, très instable, qui disparaîtra au bout de quelques secondes, une minute tout au plus. Ce qu'on vient de voir là, c'est un feu follet. Cette étrange petite flamme ne semble pas chaude, elle brûle rien autour d'elle. Est-ce que c'est une âme en peine qui attend les prières pour se libérer du purgatoire ? Ou peut-être l'âme d'un enfant mort sans baptême? Ou peut-être un mauvais esprit qui cherche à vous entraîner dans les marais? Les croyances autour du phénomène du feu follet sont très variées, mais sa véritable explication est un peu plus terre-à-terre. Il arrive en fait que dans les sols où il y a peu d'oxygène et des matières organiques, comme par exemple des plantes mortes dans les marais ou les cadavres dans les cimetières, dans ces sols, il peut y avoir des bactéries qui décomposent ces matières organiques et qui émettent du méthane, et d'autres bactéries qui décomposent aussi ces matières organiques, mais qui, elles, émettent des composés phosphorés. Les composés phosphorés, ils ont ça de particulier qu'ils sont très instables quand il y a de l'oxygène. Et donc, quand ils sont émis dans les sols peu oxygénés, ils sont conservés, mais ils vont, à un moment ou à un autre, sortir du sol et entrer dans l'air, et dans ce cas, ils vont spontanément entrer en combustion parce qu'ils vont réagir à l'oxygène. Et cette combustion dégage de l'énergie, et ça peut enflammer le méthane qui est émis par les autres bactéries, qui s'échappent aussi du sol, et c'est ce qui provoque cette petite flamme, le feu follet. Mais malheureusement, ce phénomène est devenu très difficile à observer, tout simplement parce que les zones humides et les forêts inondées ont beaucoup régressé avec l'industrialisation, l'urbanisation, l'intensification de l'agriculture, qui ont poussé à drainer les sols et assécher les zones humides, qui étaient propices au feu follet. Tandis que dans les cimetières, les cadavres, maintenant, on a tendance à les mettre dans des sachets, dans des housses mortuaires et des cercueils qui protègent le corps et évitent aux bactéries de les dégrader et produire aussi des feux follets. Il existe encore bien d'autres types de luminescence qui sont plus rares, comme par exemple la cristalloluminescence, la mécaluminescence, etc. Faut dire que la force électromagnétique avec la gravité, elle est celle qui influence le plus notre quotidien. Mais parce que rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît dans l'univers, et c'est ce qui donne tous leurs intérêts aux sciences, il existe en réalité un troisième type de source de lumière un petit peu à part, qui n'est pas incandescente et puis pas vraiment non plus luminescente. On sait que la lumière se déplace à la vitesse maximale autorisée par les mystérieuses lois de notre univers dans le vide. Mais elle peut être ralentie par la matière, et en fonction du milieu qu'elle traverse, par exemple dans l'eau, la lumière peut aller moins vite que la vitesse maximale autorisée, celle qu'elle a quand elle est dans le vide. Il peut alors arriver que d'autres particules aillent plus vite que la lumière elle-même dans le milieu en question. Et quand ces particules sont électriquement chargées, autrement dit que les perturbations qu'elles provoquent par leur passage à toute vitesse peuvent émettre des photons, comme toutes les particules chargées, alors il se produit l'équivalent lumineux du bang supersonique des avions qui passent le mur du son. C'est une espèce d'onde de choc photonique qui se forme et qui forme un cône autour de la particule. L'analogie avec le son s'applique parfaitement à l'onde lumineuse. En fait, les ondes interagissent avec elles-mêmes et forment des interférences qui s'amplifient, et ça forme ce qu'on appelle l'effet Tcherenkov. Ça crée une lueur étrange, digne d'un film de science-fiction, entre bleu et cyan, qui vont parfois jusqu'à l'ultraviolet, et qu'on voit au cœur des réacteurs nucléaires qui sont baignés dans l'eau, où les neutrons peuvent dépasser la vitesse de la lumière lumière dans l'eau et provoquer cette espèce de bang lumineux qui donne cette lueur bleutée, étrange et radioactive. Il faut toutefois pas confondre cet effet Tcherenkov avec la radioluminescence des matériaux radioactifs, bien qu'on puisse le voir dans les centrales nucléaires, comme par exemple le radium qui était étudié par Marie Curie et Pierre Curie. Marie Curie, que vous connaissez tous et toutes, la première femme à avoir obtenu un prix Nobel en 1903, conjointement avec son mari Pierre Curie et Henri Becquerel, le découvreur de la radioactivité, et la seule femme à avoir obtenu deux prix Nobel, avec le prix Nobel de chimie en 1911, que son mari n'a pas eu avec elle parce qu'il est mort, renversé par un cheval quelques années avant, pour la découverte du polonium et du radium, des éléments radioactifs. Elle est en fait la seule personne à avoir obtenu deux prix Nobel dans deux domaines scientifiques distincts, c'est-à-dire la physique et la chimie. Elle dira, quand elle a eu son Nobel en 1911, « Je tiens à rappeler que la découverte du radium et celle du polonium ont été faites par Pierre Curie en commun avec moi, un hommage à son mari décédé 5 ans plus tôt. » Marie Curie meurt en 1936 à 66 ans d'une leucémie induite par ses nombreuses expositions aux matériaux radioactifs qu'elle étudiait et aussi aux rayons X utilisés en radiographie pendant la Première Guerre mondiale, pendant laquelle elle a activement participé aux soins des soldats et elle a formé des bataillons de jeunes femmes aides radiologistes, ce qui l'a beaucoup irradié et provoqué son cancer. Je disais donc, avant cette parenthèse sur Marie Curie, qu'il ne faut pas confondre l'effet Tcherenkov avec la radioluminescence des matériaux radioactifs. La plupart de ces matériaux radioactifs émettent justement des rayons ultraviolets et des rayons X qui sont plus énergétiques que la lumière visible et qui ont une fâcheuse tendance à endommager les molécules d'ADN et provoquer des cancers. L'usage de radium dans les peintures luminescentes était très courant au début du XXe siècle, par exemple dans l'horlogerie pour peindre les aiguilles des montres et les rendre lumineuses, ou dans l'aviation et pour les signalisations de secours. Ces peintures au radium ont provoqué la mort de dizaines d'ouvrières qui affinaient leurs pinceaux en les portant à la bouche aux États-Unis. Mais paradoxalement, quand elle est bien ciblée, cette radioluminescence, elle permet aussi le traitement des cancers. Alors on a cessé ce qu'on appelait les curie-thérapies, qui consistait à traiter des tumeurs en insérant carrément du radium dedans, parce que cette méthode avait tendance à irradier les opérateurs qui pratiquaient l'opération. On l'a remplacée par la radiothérapie, qui est encore très utilisée de nos jours, qui permet de détruire les tumeurs à coups de rayons lumineux énergétiques émis par radioluminescence. Alors il est encore possible aujourd'hui d'observer la radioluminescence, je veux dire dans le spectre visible et pas des rayons X qui servent à faire les radiographies, dans certains dispositifs lumineux de secours par exemple. Alors depuis le XXe siècle, on a remplacé le radium par du tritium qui est beaucoup moins dangereux. On en trouve encore aussi dans d'anciennes horloges, d'anciennes montres illuminées au radium. Et si donc on peut toujours voir de la radioluminescence, on pourrait croire que l'effet Tcherenkov, qui a lieu dans le cœur des centrales nucléaires, est beaucoup plus difficile à observer. On pourrait croire que ce n'est pas une source de lumière très courante, mais l'univers a toujours quelques surprises pour nous. Il se trouve que des particules chargées, se déplaçant à grande vitesse, comme les neutrons dans l'eau des réacteurs nucléaires, c'est pas si rare. Le Soleil envoie dans toutes les directions et en permanence toutes sortes de particules, dont des particules chargées, c'est ce qu'on appelle le vent solaire. Faut pas croire que le Soleil ne nous envoie que des photons. Ce vent solaire y contient essentiellement des protons et des ions hélium qui sont tous deux chargés positivement et puis quelques électrons libres aussi qui eux sont chargés négativement. Et le Soleil, il en éjecte pas qu'un peu. Il perd environ 1 million de tonnes de matière par seconde de cette manière. Et une partie de ces particules finit évidemment par atteindre la Terre. Il arrive même que certaines d'entre elles traversent le globe oculaire des astronautes, et dans ce cas, elles provoquent un effet Tcherenkov dans l'eau contenue dans les yeux, et les astronautes aperçoivent alors une lueur venue de nulle part. Et ça arrive plusieurs fois par jour. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je vis pas dans l'espace, c'est pas vraiment ma vie quotidienne. Mais d'après l'astronaute Jean-Loup Chrétien, ce phénomène se produit aussi sur Terre, moins fréquemment parce qu'on est protégé par l'atmosphère, mais il estime qu'une ou deux fois par personne et par an, il y a un effet Tcherenkov dans un œil. Le problème, c'est juste de reconnaître l'effet quand ça vous arrivera et de pas croire que vous êtes ébloui par quelque chose que vous n'expliquez pas. En tout cas, ça vous en met plein les yeux. « Les mêmes vents solaires sont aussi à l'origine d'un phénomène plus courant et plus facile à voir si on habite sous les bonnes latitudes. Ce sont les aurores polaires, qu'on appelle boréales quand elles sont au nord et australes quand elles sont au pôle sud. Alors, c'est pas le résultat d'un effet Cherenkov, mais c'est une luminescence qui naît de l'interaction entre les particules chargées émises par le soleil, qui sont piégées par le champ magnétique de la Terre, et qui interagissent avec les molécules de l'atmosphère, qui gagnent alors de l'énergie et la relâchent sous forme de photons. C'est la composition de l'atmosphère qui donne leur couleur aux aurores polaires. Et comme cette composition dépend de l'altitude, les couleurs sont variées. Ça se distribue entre 80 et 1000 km d'altitude. L'oxygène émet en fait du vert et du rouge, alors que l'azote émet du bleu, du rouge et du violet. Ce sont les deux gaz qui forment l'essentiel de l'atmosphère, mais dans des proportions variables en fonction de l'altitude, et avec le champ magnétique terrestre et les particules venues tout droit du soleil. C'est ce qui va peindre sur la toile cosmique les incroyables rideaux, rayons, draperies qui teintent les nuages, la mer et la terre, les nuits de tempêtes solaires, les aurores polaires. Au 1er siècle, Pline l'Ancien disait « On a vu pendant la nuit une lumière se répandre dans le ciel, de sorte qu'une espèce de jour remplaçait les ténèbres ». En finnois, on appelle les aurores polaires des Revontulet. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, je ne parle pas finnois. Si un des auditeurs vit en Finlande et comprend ou parle le finnois, peut m'aider, je lui serai reconnaissance. En tout cas, Revontulet, ça signifie la queue du renard rouge ou le feu du renard. Les Samis, l'autre nom des Lapons, mais Lapons, c'est un mot péjoratif, le vrai nom de ce peuple, c'est bien les Samis qui vivent dans l'extrême nord de l'Europe. Ce peuple autochtone raconte donc que le renard polaire, en courant dans les plaines enneigées, éjecte la poussière dans le ciel et c'est ce qui crée les aurores boréales sur son passage. Au Groenland, pour les Inuits, on appelle ça des Aksarnit. Pareil, je suis pas sûr de la prononciation, j'en ai même aucune idée. Et ce sont en fait des esprits qui jouent au Arsak, qui est un jeu de balle populaire qu'on joue pendant la nuit hivernale. Dans les mythologies nordiques, par contre, les aurores boréales sont la danse des esprits saumons, rennes, phoques, belugas. C'est peut-être aussi le souffle des baleines, ou alors le reflet du soleil et de la lune sur les armures des valkyries traversant le ciel. Ou peut-être les torches allumées par les esprits des morts qui accueillent les nouveaux arrivants au paradis. En tout cas, des aurores telles que nos aurores polaires terrestres sont en fait visibles sur toutes les planètes qui ont un champ magnétique. Et on en a vu sur les pôles de Jupiter dans l'ultraviolet, ça a été vu par le télescope spatial Hubble, bien que le mécanisme d'apparition de ces aurores soit un peu différent. Des chercheurs ont aussi confirmé en 2011 la possible présence d'aurores polaires sur une exoplanète grâce à un radiotélescope aux Pays-Bas, c'est-à-dire une planète située dans un autre système que notre système solaire, très très éloigné. Ça veut dire que des ondes radio invisibles pour nous ont porté l'information de l'existence d'aurores polaires à travers l'espace intersidéral jusqu'à nous, en nous laissant la liberté d'imaginer les couleurs, le spectacle éblouissant de ces aurores de planètes géantes gazeuses qui sont 100 à 1000 fois plus énergétiques que sur Terre. Voilà, à l'issue de notre tour du monde et de l'univers des sources de lumière, j'espère que ce voyage vous a plu. Dans le prochain épisode de La fourmi dans la coquille, nous continuerons de suivre le chemin de la lumière et découvrirons ensemble les phénomènes qui vont réfléchir et dévier les rayons lumineux. Nous parlerons des couleurs de l'aube et du crépuscule, nous parlerons de l'irisation des plumes de Rosalie Mapoul, nous parlerons aussi de la chlorophylle des feuilles des plantes, et des radiotélescopes. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à le partager à votre entourage et je rappelle à ceux qui voudraient aller plus loin dans le détail que de nombreux textes sont disponibles sur le site internet du podcast lafourmi.media accompagné de quelques belles illustrations pour vous aider à approfondir le sujet et accéder aux sources qui m'ont aidé lors de l'écriture des épisodes. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal par Nicolas Dufresne. Merci à Anna Alcé pour son travail de relecture et à mon ami Wassaru pour sa musique. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don et nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la lettre d'information du podcast.
The more I hear about this, I mean, it just gets crazier and crazier.